France Inter.
Bonsoir à toutes et à tous. Gabriel Attal persiste et signe. Le Premier ministre maintient son souhait de mettre en place des groupes de niveau au collège. Interview ce soir à l'AFP, on en parle dès le début de ce journal. L'administration française face à une nouvelle cyberattaque. France Travail, ex-Pôle emploi, ciblé par des hackers. Ce sont potentiellement les données de 43 millions d'individus qui ont été exfiltrés. L'aide humanitaire à Gaza. Les États-Unis demandent une nouvelle fois à Israël d'en faire une priorité. Comment s'organise cette aide? Le témoignage dans cette édition d'un membre du ONG française qui revient d'une mission à Rafah. Et puis, qui seront les porte-drapeaux de l'équipe de France aux Jeux Olympiques de Paris en juillet et août prochain? Les critères ont été dévoilés aujourd'hui et vous verrez qu'ils sont très stricts.
France Inter.
Dans une interview à l'agence France Presse, Gabriel Attal persiste et signe. Le Premier ministre revient longuement sur les réformes à venir dans l'éducation nationale. Il souhaite toujours la mise en place de groupes de niveau en français et en mathématiques pour les classes de 6e et 5e. Sonia Princey, Gabriel Attal reprend en quelque sorte son ancienne casquette de ministre de l'éducation nationale.
Gabriel Attal affirme qu'il faut que les élèves soient répartis en 3 groupes selon leur niveau de difficulté pendant les 3 quarts de l'année scolaire. Mais il concède qu'ils seront en classe entière le quart restant, et notamment en début d'année scolaire, ce qu'il n'avait jusque-là jamais dit. Il reprend finalement ce qu'avait annoncé la ministre de l'Éducation nationale, Nicole Belloubet, la semaine dernière. Plus de souplesse avec possibilité de faire cours en classe entière. En revanche, Gabriel Attal continue à parler de groupe de niveau. C'est plus clair pour les Français et qu'importe le nom, pourvu qu'il y ait la mesure, selon le Premier ministre, qui se défend d'avoir des divergences avec Nicole Belloubet. Dans cette interview, Gabriel Attal estime aussi que la laïcité est plus que jamais menacée. Il veut mettre en place des cellules d'appui pédagogique. Dès qu'un professeur appréhendra une séquence d'enseignement ou qu'il se heurte à des contestations, il pourra être accompagné. C'est ce que font déjà les équipes académiques Valeurs de la République, mais la différence, c'est qu'il pourra être accompagné physiquement dans sa classe. Un autre enseignant formé sur les questions de laïcité ou un membre du personnel pourra être présent au moment du cours pour que le professeur ne soit plus seul face à ses élèves.
Sonia Princey, dans cette interview, le Premier ministre veut également renforcer la sécurité des établissements scolaires. 150 seraient dans des situations particulièrement préoccupantes. Enfin, concernant les élèves radicalisés, plusieurs pistes sont à l'étude pour les sortir de leurs établissements. Il promet une solution d'ici la fin de l'année scolaire. La crise à Sciences Po Paris, l'école saisit le procureur de la République pour des faits à caractère antisémite. Le gouvernement veut que toute la lumière soit faite sur les incidents survenus hier. L'accès à un amphithéâtre occupé par des étudiants pro-palestiniens avait été interdit à une étudiante de l'Union des étudiants juifs de France, une version contestée par le comité Palestine de Sciences Po. L'administration française continue d'être harcelée par des hackers. Cette fois, c'est France Travail, ex-Pôle emploi, qui a été victime d'une cyberattaque massive. Les faits remontent au mois de février. Et Maxime Debs, ce sont 43 millions de Français qui sont potentiellement concernés.
Ouais, 43 millions, vous me direz, ça fait beaucoup. C'est surtout que France Travail, au-delà des chômeurs inscrits actuellement, conserve dans ses fichiers les données des personnes inscrites ces 20 dernières années. En d'autres termes, si vous étiez chômeur, par exemple, en 2005 ou 2012, vos informations personnelles sont peut-être dans la nature ce soir. Alors, pas toutes, aucune donnée bancaire n'a fuité, insiste France Travail, mais quand même, des noms, des téléphones, des adresses mail, et plus préoccupant, des numéros de sécu.
Alors, France Travail a déjà subi une fuite de données en août dernier, moins importante, 10 millions de personnes tout de même. Quelle est désormais la marche à suivre, Maxime ?
Écoutez, le parquet de Paris a ouvert une enquête et mis en place un système de plainte simplifié pour les personnes concernées. Des mails seront aussi envoyés. France Travail qui met en garde contre les courriels et appels frauduleux que vous pourriez recevoir ces prochains jours. Pour rappel, France Travail ne vous demandera jamais de communiquer ni mot de passe, ni coordonnées bancaires par mail ou par téléphone.
Et cette cyberattaque survient quelques semaines seulement après celle tout aussi massive contre 2 opérateurs de tiers payants. 33 millions de numéros de sécurité sociale exposés. La France doit investir 5 milliards d'euros par an sur 5 ans dans l'intelligence artificielle si elle veut faire jeu égal avec les États-Unis et la Chine. C'est ce qui ressort du rapport du comité IA remis aujourd'hui au chef de l'État. C'est un effort réaliste, a plaidé l'économiste Philippe Aguillon, un effort qui représente 0,3% des dépenses publiques. Israël doit faire de la protection des civils et de l'aide humanitaire dans la bande de Gaza sa priorité numéro un. Déclaration ce soir d'Anthony Blinken, le secrétaire d'État américain. L'enclave toujours dans l'attente du premier bateau humanitaire. Un navire espagnol parti hier de Chypre est encore loin des côtes et sera loin de suffire car les ONG le savent déjà. Comment nourrir cette population? Comment l'organisation, comme l'organisation française Solidarité Internationale, Étienne Monin a rencontré l'une de ses équipes qui revient d'une mission à Rafah.
Oui, c'est une grosse structure. Elle intervient principalement sur l'eau et l'assainissement. Mais pour cette ONG, Gaza est une découverte. Ça n'est pas un terrain habituel d'intervention. Philippe Bonnet, le directeur des urgences, a donc pu mesurer l'ampleur de la débrouille pour les Gazaouis. Ils doivent par exemple fouiller dans les décombres des immeubles pour trouver du matériel de construction à cause des restrictions qui sont imposées à l'entrée par les Israéliens.
On sera contraint à travailler de cette manière, hein, un espèce de système D, jusqu'à ce que les camions puisse rentrer en masse avec tout le matériel qui attend parfois depuis longtemps au poste frontière.
Ces camions qui font figure de solution, ils sont nombreux à venir d'Égypte ou de Jordanie, mais le contrôle de sécurité imposé par Israël fait office de goulot d'étranglement. Il entre parfois 4 fois moins de camions aujourd'hui qu'avant la guerre et les nouvelles routes de l'humanitaire par la mer ou le ciel ne sont pas dimensionnées pour faire face, dit Philippe Bonnet.
Les bateaux et les avions, nous on le voit plus comme un outil politique des États pour montrer leur positionnement par rapport à cette crise, mais ce n'est pas ces éléments qui vont apporter aux Gazaouis l'aide dont ils ont besoin. Ce qui va permettre d'aider les Palestiniens victimes du conflit, ça va vraiment être l'entrée de ces milliers de camions avec tous les biens essentiels dont les gens ont besoin.
Hier, tout de même, une nouvelle route a été testée par les Israéliens pour faire entrer les camions de l'ONU directement au nord. C'est la partie la plus critique de l'enclave, dans laquelle au moins 10 enfants sont morts, victimes du manque de nourriture et du manque d'eau.
Et sachez qu'un entrepôt entrepôt de l'ONU basé à Rafah a été touché par une frappe aérienne israélienne. Information donnée par l'agence onusienne pour les réfugiés palestiniens. Une frappe qui aurait fait au moins un mort. Après l'Assemblée nationale, c'est le Sénat qui a approuvé ce soir le plan de soutien de la France à l'Ukraine. Un vote non contraignant, mais un vote très large en faveur de l'aide de Paris à Kiev. 293 voix pour, 22 contre. Emmanuel Macron s'exprimera demain aux 20h de TF1 et de France 2. Le chef de l'État qui doit participer en fin de semaine à Berlin à un sommet d'urgence consacré à l'Ukraine. Il symbolise un siècle de bravoure française. L'hommage d'Emmanuel Macron à Philippe de Gaulle. Le fils du général s'est éteint la nuit dernière à l'âge de 102 ans à l'Institut National des Invalides où il était pensionnaire. C'est aux Invalides justement qu'un hommage national lui sera rendu la semaine prochaine. Philippe de Gaulle, marin, amiral, sénateur, a rappelé le chef de l'État. Un nom intimement lié à la commune de Colombey-les-Deux-Églises en Haute-Marne où se situe, vous le savez, la demeure familiale des de Gaulle à la Boisserie. Écoutez l'émotion de la gérante de cette maison chargée d'histoire, Aurore Jacquinot.
Je suis sincèrement très émue parce que c'est quelqu'un que j'ai eu la chance de connaître. Et Philippe de Gaulle, à mes yeux, déjà c'était un héros. C'était un des derniers héros de la Seconde Guerre mondiale. Donc en 2019, l'Assemblée nationale lui a enfin rendu hommage parce qu'il a libéré tout seul le palais de l'Assemblée nationale en août 1944. Et j'espère qu'il gardera cette image de héros. En tout cas, c'est l'image qu'il avait pour moi, qui a eu la chance de le connaître personnellement. Et ensuite, humainement, c'était quelqu'un qui était extrêmement gentil. Je crois pouvoir dire qu'on a appris ça avec beaucoup de tristesse. J'ai presque envie de dire, pour nous, il avait un côté un peu immortel parce qu'il avait 102 ans. Enfin, il avait traversé tellement de choses qu'on pensait pas qu'un jour ça arriverait.
Voilà, Aurore Jacquinot qui gère depuis 20 ans le site de la Boisserie à Colombey-les-Deux-Églises au micro de Sarah Mansoura pour France Inter. Quels seront les athlètes qui seront porte-drapeau de l'équipe de France aux Jeux Olympiques de Paris? Si le suspense est toujours entier, les critères de sélection ont été dévoilés aujourd'hui. Des critères très précis, Guillaume Batin.
Être un Olympien ou un Paralympien, ne jamais avoir été porte-drapeau, avoir un casier judiciaire vierge, y compris de la justice sportive. Voilà les 3 critères pour pouvoir candidater, ce qui exclut les plus grandes stars, Teddy Riner, Clarisse Agbenin ou Antoine Dupont et Kylian Mbappé. David Lapartien est le président du Comité national olympique et sportif français.
Le sport français se résume pas non plus à simplement trois athlètes. Kylian Mbappé est jeune, il pourra peut-être être sélectionné à deux Jeux Olympiques et donc incarner cela. Teddy et Clarisse ont déjà eu l'occasion d'être porte-drapeau et c'est aussi normal que d'autres veuillent peut-être l'incarner.
La grande nouveauté, c'est que le vote appartiendra aux athlètes, 562 Olympiques, 260 Paralympiques. Astrid Guyard est la coprésidente de la commission des athlètes au CNOSF.
On vient effectivement d'une ère où les porte-drapeaux étaient désignés directement par le président du CNOSF. Trop rarement les athlètes avaient voix au chapitre, trop rarement les athlètes étaient consultés. Ce qui est certain, c'est que ça laisse sa chance à tout le monde de pouvoir vivre cette expérience incroyable.
À partir du 1er avril, les candidatures seront présentées par les fédérations, un homme, une femme maximum, et le vote se déroulera par voie électronique le 8 juillet.
Voilà les précisions de Guillaume Batin, tout de suite la météo.
La météo avec Euromaster. Toujours là pour entretenir les véhicules des pros. Automobiles, utilitaires, poids lourds, engins agricoles, Euromaster, votre partenaire confiance depuis plus de 30 ans.
Sébastien Léas.
Douceur et soleil au programme pour demain. Un soleil qui sera tout de même parfois bien voilé, voire temporairement laiteux, en particulier sur un large quart nord-ouest. En début de matinée, il faudra aussi composer avec quelques grisailles. Ces nuages bas et plaques de brouillard seront notamment fréquents entre le Grand Est, le Val-de-Saône et le Lyonnais, mais se dissiperont généralement rapidement pour un après-midi bien ensoleillé. Autour du golfe du Lion, le vent venu de la Méditerranée apportera des entrées maritimes qui se morcelleront un peu l'après-midi. En Bretagne, la journée sera plus grise à l'approche d'une perturbation. Cette perturbation sera peu active mais apportera un peu de pluie à partir de la fin de matinée. La hausse des températures va se poursuivre demain. Les maximales de l'après-midi grimperont entre 14 et 21 degrés en général, avec 18 à 23 voire 24 degrés dans le sud-ouest.
Merci Sébastien.